Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch qui résume et analyse les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est Backlash. Et pour analyser ce pay-per-view spécial SmackDown, évidemment, je suis accompagné de l'expert bleu, Giscal. Salut Giscalou.
Salut Yarem, salut tout le monde.
Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons un invité, il est là toujours aussi incognito, c'est Ringside.
Salut Ringside.
Voilà. On sait pas si c'est vraiment Ringside.
Un homme de peu de mots. Un homme de peu de mots, évidemment, en espérant qu'il soit un peu plus bavard pour l'analyse qui va suivre au menu de ce Backlash. Shinsuke Nakamura qui envoie Dolph Ziggler sur la lune, Tyler Breeze est infiltré, Sami Zayn bouffe du baron, les filles font du cosplay, AJ Styles prend son pied et enfin Jinder Mahal louche sur la ceinture de Randy Orton. Juste en pré-show, Tyler Dillinger a battu Aiden English et Luke Harper a battu Eric Rowan. J'ai triché un petit peu, ce match-là n'était pas en pré-show, mais il aurait dû y être. On attaque le plat du jour. Ziggler versus Nakamura en opener, c'était l'affiche hein, de ce pay-per-view. On en a suffisamment parlé lors de des différents suppléments de SmackDown. On y est, le grand moment est là. Dolph Ziggler en pantalon d'astronaute américain qui admire comme nous l'entrée électrique de Shinsuke Nakamura qui lui est tout de rouge vêtu. On démarre. Dans un mélange de provocation et de torturage de doigts, Dolph Ziggler a visiblement regardé le takeover de la veille. Mais Dolph Ziggler ne supporte pas les provocations de Shinsuke Nakamura. Il prend le contrôle du corps du japonais en l'étranglant au sol pendant de longues minutes. Hein. On est dans du catch technique, du catch de maîtrise, de la lutte. Avant de high-kicker le nez du japonais, pas question de laisser Shinsuke Nakamura le prendre de vitesse. Il dit qu'il ne connaît pas trop Shinsuke Nakamura, mais je pense qu'il ment. Il a regardé des vidéos, il entame un travail de ça. Mais Shinsuke enclenche enfin la seconde, faisant déguster des genoux au blondinet. Seuls les cordes sauvent l'ancien champion intercontinental qui plante son adversaire d'un majestueux DDT aérien. Tentative de tomber avec le Famous Sir, on chauffe le super kick, pardon. Il fonce sur Shinsuke, mais il est contré. Il a quand même le temps de placer son zigzag, mais simplement deux, ça ne passe pas. Il décapite dans la foulée d'une semelle dans la nuque le japonais. La provocation continue avec un gros crachat dans la tronche. Ça se chamaille gentiment au sol, des chamailleries qui s'achèvent finalement par un Kinshasa après une petite séquence à l'extérieur du ring, un Kinshasa létal. Victoire de Shinsuke Nakamura. Vous aurez peut-être remarqué qu'on a beaucoup parlé de Dolph Ziggler dans ce résumé. Peut-être c'est quelque chose qu'on va pouvoir reprocher à ce match. On va commencer par Ringside, notre invité. Tiens, de prestige, hein. Qu'as-tu pensé de cet opener? Est-ce que les dons délivrés, en particulier Nakamura? Alors, on ne parle pas Ringside. Tu es là non seulement incognito visuellement, mais aussi audio.
On ne m'entend pas. Ah, voilà, pardon.
Il est muté.
Voilà, je suis poli, je coupe mon micro.
Un homme de peu de mots, nous vous l'avions ça. Annoncé en introduction.
L'amateurisme est de retour. J'ai pas du tout aimé, hein, tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé cet opener. C'est assez, on avait dit qu'il fallait pas qu'ils se plantent avec Nakamura son arrivée, ils se sont plantés à mon avis. Encore une fois, on a un Nakamura qui fait rien du tout entre les cordes. À chaque fois qu'il tente un truc, il se fait contrer. Il a rien placé à part deux coups de pied et puis son Kinshasa. Il a peut-être fait une descente du genou à un moment donné du haut de la troisième corde, mais On voit pas du tout où est le roi du strong style. Alors effectivement, on a un artiste peintre là visiblement entre les cordes. C'est Ziggler qui a tout fait, mais bon, on n'était pas là pour voir une mise en avant de Ziggler. Donc voilà, je pense qu'encore 2-3 matchs comme ça et puis là la foule sera on aura définitivement assez, je pense, de Nakamura. Je pense un seul match encore comme ça et puis c'est réglé. C'est le même booking de merde qu'on avait à NXT. Avec un Nakamura qui est à mes yeux booké comme John Cena, c'est-à-dire qu'il fait des John Cena de la pire époque, hein, c'est-à-dire qu'il fait rien pendant tout le match et puis il place ses 5 moves of doom à la fin. Sauf que Nakamura, il en a que 2 des moves of doom, donc c'est encore moins parlant. Et voilà, je suis très très déçu. J'ai un gros fan de Nakamura, mais là depuis, je pense que son dernier match, ça doit être contre Finn Balor il y a un an à peu près. C'est vraiment, pour moi, c'est complètement loupé. Hein.
Bon, alors c'est lâché. On a invoqué John Cena dans l'analyse. Du coup, qui dit John Cena dit Giscale. Giscale, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Déjà, je sais pas, j'ai jamais connu de mauvaise époque de John Cena, donc je saurais pas trop me prononcer.
Quel escroc,
bon,
voilà,
déjà,
mais
ça,
quel
c'est
escroc.
Réglé. Bon, voilà, après, non, je pense que je rejoins l'analyse moins virulente, mais je rejoins quand même l'analyse de Ringside pour dire que, enfin, moi en fait, j'en veux plus aux bookers, enfin, aux bookers, aux road agents qui ont travaillé sur ce match. Alors, je sais pas trop ce qu'ils faisaient à NXT, mais en effet, il y avait trop de Ziggler dans ce match, pas assez de Nakamura. J'ai pas eu le sentiment que l'un des deux jouait avec le frein à main, comme on peut parfois le reprocher à Ziggler, à Orton ou des mecs comme ça. C'était plutôt intense dans la dramaturgie. Les deux étaient plutôt impliqués. Il y avait, j'aimais bien l'histoire entre les deux. Vraiment, t'avais Ziggler, on a l'impression que il était presque insulté d'être dans le ring avec Nakamura pendant tout le match. Il essayait d'asseoir sa domination. Il lui crache au visage et tout. Enfin, je trouvais que dans la montée en intensité, c'était pas mal. Mais par contre, dans le booking, dans la construction du match, ouais, il y avait trop de Ziggler et Nakamura. En fait, au final, tu ressors du match. Et tu te dis, ok, il a survécu à tout l'arsenal de Ziggler, soit. Ziggler, ça reste un loser quand même, enfin ça reste un jobber. Il a failli se faire coucher. Enfin, il a mis 16 minutes avant de le tuer en se faisant ratatiner pendant quasiment tout le match par Ziggler. C'est pas comme ça que je bookerais une superstar personnellement, alors que c'est l'impression qu'on essaie de nous donner depuis 4 semaines, c'est que Nakamura c'est la méga star absolue, il a même pas besoin d'être dans l'émission, sa simple entrée fait frissonner la foule. Bon, tu ressors du match, tu te dis ouais, est-ce que ça vaut la hype, mais pas à cause du catcher, à cause, je trouve, d'une construction de match un peu inadapté.
Ouais.
Voilà.
Ouais, effectivement, ça c'est là toujours la question, à savoir quelle est la part des catcheurs dans la construction du match. En fait, le problème c'est qu'on nous a teasé, enfin toute la rivalité était tournée autour de Ziggler qui, on va dire, était de mauvaise foi en se demandant mais qui est Nakamura, qu'est-ce qu'il a fait,
ouais.
Quels sont ses hauts faits, et normalement on aurait dû avoir la réponse. Lors de ce backlash, tout était basé là-dessus. Il était à l'affiche de backlash, Nakamura. C'est lui qui était sur les posters. Comme tu l'as dit, Giscale, comme tu l'as rappelé, il n'y avait pas besoin qu'il nous montre, il n'était pas digne des weekly, ou les weekly n'étaient pas dignes de Nakamura, plutôt. Il fallait que ça se passe au pay-per-view. Et cette réponse, on ne l'a pas eue. On est à la fin du match. Et sauf si on a suivi Nakamura et NXT, etc. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui regarde SmackDown. Il se dit, il a pas. Je sais qui est Nakamura. Je ne sais toujours pas qui est ce type et pourquoi il est. C'est une star parce qu'il a une aura, parce qu'il a un super tsang. Ouais. Mais c'est pas une star parce qu'il a il est flamboyant dans le ring. Donc c'est vrai que la réponse à la question n'était pas la bonne en fait. Et,
non. Puis la seule innovation du match, au final, tu t'attendrais à ce que ce soit Nakamura qui t'ébahisse un peu, et la seule innovation du match, au final, ça a été Ziggler qui l'a sorti avec son super kick dans la nuque, qui était
incroyable,
qui était assez violent et qui aurait pu valoir. C'était un bon near fall ça pour le coup, parce que c'était tellement inattendu que j'ai presque cru qu'ils allaient le terminer là-dessus. Mais bon. Et tu vois, et même le shocking moment, le moveset un peu inattendu, bah c'est venu de Dolph Ziggler, ce qui est pas normal.
Non, toute l'emphase était mise sur Dolph Ziggler, effectivement. Donc c'est dommage, hein, et je pense qu'effectivement ils viennent de griller une grosse cartouche là pour Nakamura. Il faut pas recommencer, hein. Il faut vraiment que là ils sortent de cette période.
Moi je pense que c'est voilà, mort. Je pense qu'ils le feront jamais catcher comme il faut, et, pour différentes raisons et que.
Ouais. Le problème c'est qu'ils ont commencé effectivement à NXT. En fait, ça date, hein, de sa fin de règne, enfin de son fin de run plutôt à NXT, où il a commencé à se remettre en première vitesse. Et là, et ben, bah, il a pas encore.
T'as quand même un an de traitement avant pour arriver à ça. C'est zéro. Hein.
Non, effectivement, là, carton jaune voire rouge pour Nakamura / les Bookers / ce que vous voulez. Bon. On va se détendre avec la division tag team, puisque ce soir, Breezango affrontait les Uso dans un match à enjeu avec le titre à la clé. On a droit à une petite rediff du dernier épisode des Fashion Files. Puis Fandango qui arrive sous le titan tronc, il est escorté d'un homme de ménage. Et oui, Tyler Breeze est donc toujours officiellement en infiltration, il est toujours undercover. Il passe la serpillière sur la rampe, un vrai Denis Brasco, hein, le mec qui est infiltré jusqu'au bout. La bonne ambiance est interrompue par l'entrée paranoïaque des frangins Uso. Fandango, pour l'entrée en matière, il distribue, hein, quelques envolées, quelques kicks, avant de taguer enfin l'homme de ménage sous une énorme pop. L'homme de ménage qui nous fait une sorte de danse de l'homme ivre, finalement, puisqu'il fait mine de ne pas trop savoir ce qu'il est en train de faire. C'est pour mieux délivrer son arsenal derrière. Il fait notamment trébucher innocemment son adversaire, mais la serpillière finit à la casse. Le public est en deuil. On avait là une Francesca, finalement, de la Francesca quasiment, de SmackDown, hein, qui aura connu une vie courte mais courte. Intense. L'homme Yves continue ses pitreries au sol, ce qui agace Jay ou Jimmy. Fandango prend alors le relais. Il place un déhanché et un tombé de la jambe sur son adversaire. Puis, c'est une vieille dame qui apparaît. On l'a pas trop vu venir, celle-là, qui fait le tag et prend à nouveau par surprise les frangins Uso. Il déroule son cache de grand-mère. Évidemment, c'est Tyler Breeze, hein, qui est grimé comme une vieille dame. La robe, justement, de la vieille dame qui finit dans la tête à JBL. On aura même droit à un replay et les commentateurs, ça aura fait leur beurre pour tout le match. Dans tout ce festival de pitreries, les Uso tentent de reprendre les affaires au sérieux. C'est pas facile, mais Breezango, hein, fait un bon travail d'équipe, ils enchaînent, puis les Samoans trouvent enfin le chemin à la faveur d'un bon teamworking. Jay frappe par erreur Jimmy, alors que Tyler Breeze en profite pour placer une sorte de kill switch, hein, j'ai un petit hommage à Christian, là, pour le compte de deux, avant de finir par-dessus la barricade. Fandango vient à la rescousse, dans un plongeon par-dessus la troisième corde, mais se fait sécher quelques secondes plus tard définitivement. Les Uso font le tombé. 1, 2, 3, on y est, voilà. Les Uso conservent, mais on a assisté là peut-être à l'éclosion d'un nouveau chouchou du public. Giscal, qu'as-tu pensé de nos amis de la Fashion Police?
J'ai bien aimé, c'était ce à quoi je m'attendais plus ou moins, avec peut-être une tout petit déséquilibre un peu trop fort sur la comédie au début. Allez, ça méritait peut-être 2 minutes de moins sur la comédie pour que vraiment on ait un match un peu plus équilibré, un peu plus solide, mais c'est ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé Tyler Breeze excellent, vraiment, j'avais pas autant ri dans un match, je pense, depuis des mecs type Santino Marella et tout. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a été très très bon dans ce comedy wrestling. Le public a, d'ailleurs, il a accroché, il a emmené le public avec lui, hein. Il y a eu des Let's Go Grandma, le public qui était à fond quand le ballet a été cassé en deux, ce qui prouve que ça fonctionnait. Donc le public a été bonne patte quand même. Donc je trouvais ce match sympa, différent, rafraîchissant un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Ils ont bien tranché dans le match. C'est finalement grâce à la ficelle vestimentaire, hein, à partir du moment où ils sont passés, où Tyler Breeze est revenu avec son pantalon classique, du coup on est passé sur un match, on a compris qu'on était passé sur un match plus sérieux, un vrai match de catch, donc il y avait une vraie démarcation. Je trouvais que la démarcation arrivait un tout petit peu trop tard dans le match,
Et puis bah écoute, après à part ça le résultat est logique, on savait que bon bah voilà Brisango était là pour écoute pour asseoir peut-être un petit peu son nouveau positionnement vis-à-vis du public, montrer ce qu'il savait faire dans le ring. Les Usos n'allaient pas perdre la ceinture aussi facilement, c'était sûr. Donc j'ai passé un bon petit moment, le public aussi apparemment. Un petit commentaire peut-être, je pense que peut-être que le match pêche parce que il arrive à mon avis dans la construction du show, il s'attendait peut-être à ce que l'opener soit beaucoup plus solide. Et en fait, l'opener un peu mou du genou plus ça fait que au final on pourrait reprocher au début d'émission, au début de pay-per-view d'être trop mou, d'être trop léger. Mais je pense que on va continuer à accabler Nakamura. La faute en revient plus à l'opener parce que je pense que le match serait peut-être encore mieux passé après derrière, mais bon voilà.
Moi les mecs qui se déguisent, c'est pas trop mon truc. non, j'ai beaucoup ri. Franchement, c'était vraiment très bien ce match tag team. Tyler Breeze, chapeau, hein, c'était excellent là son déguisement de d'homme de ménage là, son passage où il roule par terre pour esquiver les splash des Usos, ça m'a fait rigoler. Bon, le coup de la grand-mère, c'était un petit peu plus un petit peu too much peut-être. Mais, ouais. Bon, j'ai bien rigolé aussi quand l'autre lui met un coup dans la béquille. Évidemment, il tombe pas vu que c'est pas une grand-mère. les coups de Tyler Breeze sont bien placés. Fandango, pour une fois, il a déroulé, on voit qu'il est solide aussi finalement dans le ring. Et les Usos, alors moi j'avais parié contre les Usos, mais quand ils ont débarqué dans l'arena, j'ai vite compris qu'ils ne perdraient pas le match, hein, parce que ils ont pris un putain de charisme, hein, moi je trouve, là, depuis leur passage, là, et ça s'est vu, là, sur pay-per-view, rien qu'à leur arrivée, là, ils n'étaient pas là pour rigoler.
Ça marche bien.
Et voilà, dans l'absolu, tout ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, et j'ai l'impression, moi, que ça avait plutôt bien fonctionné au niveau du public, maintenant.
Ah oui, ça a bien fonctionné.
Hein, on est d'accord. Ah oui. Voilà, donc ouais, pour moi c'est le meilleur match de la soirée en vérité. Hein. C'est le seul passage où j'ai pas en passé un bon moment.
Eh bien, voilà qui en dit beaucoup. ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Franchement, là, ça fait plaisir de. Enfin, et surtout, ils ont vraiment eu le temps de dérouler leur catch. Hein, les deux Zigoto là et leur Breeze et Brisango et Fandango, donc c'était pas juste du comedy wrestling sans catch à l'intérieur, donc c'était vraiment bien. Et du coup pourquoi pas continuer à les suivre, même si c'est en dehors de la title picture, ça aura le mérite de vraiment leur donner toute l'attention, ouais, toute l'attention de qui mérite, parce que c'est des gars qui bossent et qui bossent bien. Alors, l'attention qui mérite, je ne sais pas s'ils l'ont eu, mais en tout cas, ils avaient un match. C'est Sami Zayn et le Baron qui s'affrontaient ce soir. Le Baron qui a malmené le Rouquin les semaines qui ont précédé le pay-per-view. Baron et Sami Zayn, hein, qui également se tordent les doigts et les bras. C'est la nouvelle façon de catcher. C'est la mode. Le Baron qui est, je cite, hein, le Steve Jobs du catch, visiblement, d'après les commentateurs. Il accomplit de grandes choses, mais il n'est jamais content.
J'avais pas entendu celle-là. Voilà, ça doit être JBL, ça, non?
Oh oui, probablement. donc, Sami Zayn, hein, qui balance Steve Jobs hors du ring. Il prend de vitesse, le Rouquin, pardon, qui prend de vitesse le Baron malgré les douleurs dorsales. Et oui, il a mal au dos, Sami Zayn. Il va au-delà de la douleur. Il place notamment un moonsault depuis la barricade. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Le loup solitaire a repéré la faille. Et après quelques minutes, place un gros câlin de l'ours. Hein. Et comme ce n'est pas suffisant, un bon spinebuster s'ensuit. Il le place une deuxième fois dans un câlin de l'ours. Le Baron savoure ce moment de pur délice. Sami Zayn va alors bouffer du Baron jusqu'à plus soif, notamment un énorme deep six, pardon. Mais l'improbable se produit, puisque puisant dans sa rage, au-delà de la douleur lombaire, Sami Zayn colle deux finishers sur le Baron, ses deux gros kicks. Le Baron qui s'écroule, pris par surprise, il ne se relèvera pas. Sami Zayn remporte le match. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Je ne sais plus qui a pris la parole en dernier, précédemment.
C'était Rings.
Eh ben, Ringside, alors, qu'as-tu pensé de ce match?
C'était du niveau d'un Weekly, main event de Weekly, peut-être au mieux. Apparemment, il a pas sorti le grand jeu. Sami Zayn, il a fait du Sami Zayn classique. J'étais pas dans la rivalité, ça m'a pas touché plus que ça. Le finish, j'étais quasiment certain que ça se finirait comme ça. C'est vraiment bof quoi. Il y a rien de transcendant et rien qui mérite d'être en pay-per-view dans toute cette histoire. Et je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec le Baron. C'était pas la peine de le monter comme ça pour le faire stagner maintenant à ce niveau. Et puis le pauvre Sami Zayn, il est toujours prisonnier de la mid-card. Voilà, on parie pas sur les bons chevaux, et là on a un match complètement anecdotique qui sert à rien du tout, quoi.
Bon, et toi, Giscal, est-ce que tu as trouvé ce match inutile?
Ouais, un peu pareil. Ouais, c'est un peu ça, inutile. C'est-à-dire que j'ai rien à reprocher au match, c'est très propre. Oui, je pense que c'était du niveau d'un bon main event de Weekly, sans plus. Mais comme a dit Ringside, Sami Zayn a fait du Sami Zayn, Baron Corbin a fait du Baron Corbin, donc beaucoup de moves puissants, bien vendus par Sami Zayn. Sami Zayn est super fort pour prendre la hit et le babyface en péril et tout, et puis le comeback final pour l'emporter. Donc ça, ils savent faire. Ils ont récité leur partition, c'était très convenu. Pas de surprise, je me suis jamais pris la tête à deux mains, j'ai jamais ouvert la bouche. C'était assez classique, bon match, mais bon, très dispensable en pay-per-view, je suis d'accord. Et mon seul regret, c'est qu'au final, je crois que la semaine dernière dans la vidéo de prono, j'avais dit que Sami Zayn l'emporterait, et j'ai changé mon pronostic à la dernière minute, un peu pour ce que Ringside a dit dans son analyse, à savoir que c'est vrai que c'est un peu dommage de faire monter le baron tant que ça pendant des semaines si c'est pour le coincer avec une défaite contre Sami Zayn. Et c'est un peu ce qui m'a fait changer d'avis dimanche dans mon pronostic. Bon, raté. Donc j'ai perdu.
Bien fait
pour moi.
Hyper souvent, c'est...
Moi, j'avais voté Baron.
Toujours la première impression.
Hyper souvent, ses premiers matchs, Baron, dans ses rivalités.
Ouais, c'est vrai, hyper souvent. Il devrait écraser...
Tu aurais dû mettre ça dans ton carnet de notes, ce pronostic. Écoutez,
moi, rien, je suis pas parfait là-dessus.
Rien à rajouter en ce qui me concerne, effectivement. Je trouve que Sami Zayn, ils l'ont quand même booké un peu trop fort, ok. Il a eu par surprise, il a mis toute sa rage sur la fin du match, mais il y a un moment que tu morfles comme il a morflé et que t'as en face, t'as quand même un Golgoth. C'est un peu dommage, un peu contre-productif ces matchs-là. On verra ce qui s'ensuit. Maintenant il faut qu'il continue la rivalité et que le Baron reprenne le dessus, et puis peut-être que ça sauvera la mise. Bon, on enchaîne avec les matchs qui sont inutiles, peut-être, les filles se sont mises sur la tronche ce soir. James Ellsworth, donc, qui nous souhaite la bienvenue aujourd'hui, Carmella. Tamina a piqué la tenue de Nia Jax dans les vestiaires. Hein. Natalia, elle entre, hein, voilà, tout simplement. Becky Lynch fait du cosplay de World of Warcraft, là où le jeu là, Horizon Zero Dawn, là, une tête de troll. Voilà. Elle est rejointe par Naomi, la championne, et Charlotte, la queen. Les filles qui s'échangent les premières hostilités jusqu'à ce que les heels n'isolent Charlotte. Après, on a un match totalement anecdotique. À la fin, Becky Lynch invoque le feu sacré face à Natalia et elle touche. Mais les nombreuses interventions de Tamina sabotent son travail. Becky Lynch est isolée. Les deux autres, ses copines, sont hors du ring. Elles ont été mises sur la touche. Pire, elles se retrouvent piégées dans le sharpshooter. Et elle finit par taper. Becky Lynch abandonne sur la prise de soumission de la Canadienne. Victoire des Hills. Il y a un peu dans le gaz probablement chez les Face. Giscal, qu'as-tu pensé de ce match?
Ouais, c'était pas bon. On va pas y passer 107 ans. C'était chiant. Je pense que c'est le match que j'ai passé le plus rapidement. C'est raté. J'étais j'avais bon espoir, je leur laissais le bénéfice du doute aux filles, parce que un petit 3v3 en mode guerre de gang et tout, moi, je trouvais que ça pouvait être un peu original. Sauf que au final en fait les méchantes, enfin c'est plus le booking en fait du match que je comprends pas, parce que ça n'a aucun intérêt, ça fait pas avancer grand-chose. Les méchantes gagnent, mais voilà, parce que manifestement elles sont plus intelligentes, elles sont plus structurées en équipe que les gentils. Sauf que les gentils n'ont montré aucun signe de dissonance qui aurait pu être une ficelle de booking justement, hein, parce qu'on sait que Charlotte et Naomi s'apprécient pas trop parce que Charlotte veut récupérer sa ceinture. On n'a eu rien de tout ça pendant le match. C'était juste les méchantes en fait qui ont fait des interventions. Becky Lynch qui perd sur soumission. Je suis pas persuadé que ce soit le meilleur finish qu'ils aient pu prendre. Ouais, parce que si Natalia qui gagne, alors est-ce que c'est elle la prochaine challenger? Mais bon, elle a pas fait le tomber sur, on aurait pu imaginer un tomber sur Naomi plutôt. Enfin bref, j'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire avec ce match, quel était le but, et puis en plus c'était pas très très divertissant, donc.
Ouais. Ah, spoiler, la réponse est rien.
Ouais.
On blé du temps d'antenne, oui.
Inside.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Ça n'avait aucun sens, aucun intérêt, faire catcher Carmella aussi longtemps, alors qu'il y a Charlotte qui est là, Naomi et compagnie. C'est quand même bien idiot, mais c'est à SmackDown, donc on parie pas sur les bonnes personnes. Et puis, un finish où, on fait taper Becky Lynch, voilà,
je sais pas si elle avait besoin de ça.
Je trouvais ça idiot sur toute la ligne et puis pas intéressant du tout. Donc c'est aussi zéro.
Surtout qu'elle a déjà bouffé son pain noir, hein, face à Natalia. Elle avait déjà une rivalité où justement elle avait laissé filer quelques victoires.
Ouais,
donc,
ouais. Non, franchement, zéro, ça fait pas avancer la rivalité, ça sert à rien. Puis le match était pas intéressant. Donc 0-0. Quoi.
Bon, nous allons finir. Je ne m'acharnerai pas sur le cadavre froid de ce match. On va plutôt essayer de réchauffer nos cœurs avec une affiche qui était une de celles qui nous emballait le plus parmi la carte, puisque c'est Kevin Owens, le nouveau visage des États-Unis d'Amérique, qui défendait donc son titre, hein, face à AJ Styles. Le roi de SmackDown, KO, qui veut jouer au petit con, mais il se fait surprendre par AJ Styles, le voilà pris au piège. Les deux se tordent le cou, on se tord les doigts, là on se coud, obligé de fuir, hein, Kevin Owens. Les deux prennent le dessus, un tour à tour au début du match. Grosse close line sur AJ Styles et Kevin Owens qui continue les provocations tout en donnant des coups de genou, DDT, Triple Senton. Là, il s'acharne un petit peu sur AJ qui finit tout écrasé par terre mais se dégage du tombé. Kevin Owens qui garde AJ Styles au sol, mais quand ce dernier se relève, c'est pas pour faire joli. AJ Styles bombarde son adversaire de coups avant de le plaquer au sol face la première. Backbreaker, mais le moonsault est contré par un super kick et un neckbreaker. AJ Styles se reprend et l'arme, le Styles Clash sur le bord du ring. C'est impressionnant, mais c'est contré et puni par un cannonball au final. Un incroyable ankle lock bien tordu, hein, de la part du Canadien. Seules les cordes sauvent l'ami AJ. Un contre en powerbomb plus tard, AJ Styles retrouve le chemin de la victoire. Mais son pied lâche sur la corde alors qu'il était en train d'armer son phénoménal arm. Kevin Owens en profite et le punit. Échange justement de punition quand AJ Styles brise la colonne vertébrale de Kevin Owens d'une souplesse arrière sur le bord du ring. Il est enfin parvenu à placer le Canadien, à l'écraser sur le bord du ring, suivi d'un phénoménal arm. Les deux se rôdent suite à l'extérieur, hein, sur la table des commentateurs suédois. Mais le pied de AJ Styles glisse, il est pris dans les câbles audio, vidéo, RGB, HDMI, tout ce que vous voulez. Kevin Owens en profite, il se jette sur le ring. On arrive au compte de 10, ça tombe. Et oui, victoire de Kevin Owens par décompte à l'extérieur. Le Canadien qui revient en mettre un petit coup dans la caboche AJ Styles, histoire de faire bonne mesure. C'est ainsi donc que se termine ce match. AJ Styles qui aura droit à sa musique quand il est rentré dans les vestiaires. Giscal, qu'as-tu pensé de ce premier match dans la rivalité qui oppose Kevin Owens et AJ Styles?
Voilà un match qui me donne envie d'en voir plus, contrairement à l'opener de l'émission. Voilà un bon premier match dans une rivalité qui donne vraiment qui donne vraiment envie de voir la suite, de voir deux mecs se taper dessus et continuer. C'était très très intelligemment catché, j'ai trouvé. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match. J'ai vraiment été captivé du début à la fin parce que par l'intelligence de Kevin Owens dans son catch, qui est toujours c'est marrant, je suis toujours surpris à chaque fois de voir à quel point ce mec qui a un physique complètement improbable est capable d'alterner les pirouettes, le catch au sol, la rapidité. Il a toujours joué pendant le match avec le souci de contrer AJ Styles tout le temps pour l'empêcher de prendre du momentum, de la vitesse. C'était il n'y avait pas de temps mort, c'est très agréable à suivre. Il y a eu un selling magnifique pendant tout le match, hein, sur la jambe de AJ Styles. J'ai trouvé le spot où il vend son phenomenal forearm en glissant sur la troisième corde. Il le fait vraiment très très bien. Je trouve que le finish est bien vu. J'avais un peu peur que Kevin Owens allait garder la ceinture. J'avais un petit peu peur de la disqualification. Et je trouve que c'est une façon finalement très intelligente d'avoir donné une victoire assez forte à Kevin Owens quand même. Il avait besoin, je trouve, de remonter un peu au niveau d'AJ Styles qui d'une certaine façon est redescendu un peu dans la carte pour aller chercher cette ceinture US. Bah finalement, après ce match, j'ai l'impression que les deux se sont mis à niveau l'un de l'autre et on est parti pour peut-être une série vraiment très 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 cool entre les deux hommes. Donc de bout en bout, je donne une très bonne note.
Ringside. Ouais, c'est un bon match, excellent match. Les deux meilleurs catcheurs du moment, peut-être, qui s'affrontent, donc forcément, ça fait des étincelles. Par contre, moi, le fait que ce soit pas en main event, que ce soit pas autour du titre WWE, ça me gâche tout. Voilà, je trouve que c'est une perte de temps de les faire se battre les deux là pour la ceinture US, même si ça met un peu le titre en valeur. C'est pas crédible, ça me tue toute la dramaturgie. Du coup, voilà, je trouve que tout est prévisible et que ça sert à rien au final. Donc c'est pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau, un beau coup d'épée, hein, bien exécuté, mais ça passe à côté de l'effet.
Splash.
voilà, tout ça devrait être en main event, ça devrait tourner autour du titre majeur. Voilà, au moins on a ça qui sauve à peu près le show, mais pour moi c'est 20.
Mais tu comprends, le marché canadien est déjà acquis à la cause de la WWE.
Ouais, à mon avis, le marché indien va avoir du mal à se faire si on leur propose de la merde comme ça. Hein, mais bon. voilà, spoil. C'est sûr que ça pouvait pas être en main event du fait de ce qui se passe après, mais pour moi, c'est gâcher des talents, même si ils ont du temps d'antenne, même si on leur a donné 20 minutes. Voilà, une carte, quand tu la montes, il y a des choses qui doivent être faites, et puis tu proposes pas, tu paries pas sur les personnes sur qui on parie à l'heure actuelle. Ça devrait être les main eventers du show, et puis c'est tout.
Ouais, bon, je comprends effectivement si tu à l'analyse, en mettant la façon dont sont situés les catcheurs par rapport à la carte, par rapport aux ceintures, etc. C'est vrai que c'était frustrant. Maintenant, bon, voilà, pour débuter une rivalité, puisque hein, visiblement la rivalité va continuer, en tout cas, on l'espère. Bon, après, c'est quand même, c'était un super match et puis, ça mène autour d'une ceinture et puis c'est voilà et puis il faut se contenter de ça pour eux à l'heure actuelle. Visiblement la WWE Stamford a d'autres plans en ce qui concerne le titre suprême. Et ben messieurs, nous y voilà enfin. Est-ce que l'histoire de la Cinderella, la story de Jinder Mahal, la prophétie
on l'avait dit hein, pendant 4 semaines on l'a dit hein,
va se réaliser. Tous les pronostics étaient contre lui, nous allons dire. Juste avant Backstead, on a eu droit à une petite promo de Jinder Mahal face caméra après être arrivé en limousine avec le tapis sous les pieds. Jinder Mahal qui souffre de strabisme, hein, visiblement, et louche énormément et qui veut nous regarder droit dans les yeux. Il a un œil qui dit merde à l'autre. Voilà, il nous récite hein, sa promo habituelle d'Indien victime de la société. Le match commence. Orton qui se jette sur Jinder Mahal comme un fou furieux. Il est pressé d'en finir. La cloche n'a pas encore sonné. La blague a assez duré. C'est ce qu'on se dit. L'Indien se fait balancer aux quatre coins du ring. Il retrouve son souffle et la cloche sonne enfin. Jinder parvient à neutraliser la vipère à l'extérieur du ring avant d'enchaîner les clés de bras à l'intérieur. Les clés de bras, j'espère que vous aimez ça parce que vous allez en avoir beaucoup ce soir. Des chants « Let's go Jinder », je crois, résonnent dans l'enceinte avec, je crois, également des chants CM Punk. C'est Chicago, on est smart et on est con jusqu'au bout. Mais c'est bien Jinder hein, qui renverse Andy Orton, la locomotive, qui tromperont alors son travail de sape à base de petits coups de semelle, hein, les petits coups de semelle de Randy Orton que vous aimez tant. Bataille de grimace, Jinder Mahal atterrit sur la table des commentateurs. Retour au ring où Jinder attend Randy pour le maîtriser avec des clés de bras, évidemment. On s'éclate ce soir. Wouhou, ça dure comme ça pendant de longues minutes. Interminables minutes, même seul le poteau nous sauve de l'ennui quand l'épaule de Jinder vient s'y empaler. Suplex depuis le turnbuckle, suivi d'un power slam, d'un DDT, the rope, la from the rope et autres ortonneries. Séquence vipère, hein. Orton se débarrasse une première fois des Singh Boys. Il place son RKO, mais ils sont toujours là, les sbires de l'affreux Jinder. Alors, il décide de s'en débarrasser une seconde fois dans un festival aérien d'un temps. C'était assez impressionnant. Tentative de meurtre avec l'un des deux qui a fait
juste. Assumé, apparemment.
Qui a vu sa vie défiler, je pense. Aveuglé par sa folie, Orton ne voit pas Jinder se faufiler par derrière et placer son finisher. 1, 2, 3, Jinder Mahal remporte. Jinder Mahal est votre nouveau champion WWE. Évidemment, c'est la célébration. Profites-en, Jinder, profite. T'es à Chicago, tu as volé le titre. On vole beaucoup de titres quand on est à Chicago, mais habituellement, voilà, c'est un tout autre calibre de catcheur qui vole la mise. Bon, je ne sais pas par qui commencer, du coup, qui a le plus envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Mais qui lève la main.
J'ai peur du commentaire de Ringside, alors je ne sais pas, je
vais peut-être le laisser. Vas-y.
On va le laisser pour plus tard, alors peut-être. Bon, allez, Giscard. Un peu de bien, peut-être, à tirer.
Écoute, je n'osais y croire. Je l'avais dit hein, pendant 4 semaines qu'il avait l'air, avec cette ceinture, il avait la tronche d'un champion. Moi, je trouve que voilà, ça lui allait bien. J'avais très peur que ça arrive et je suis assez déçu de moi parce que je n'ai pas mis mon argent où est ma bouche, comme disent les Anglais, hein, littéralement, puisque j'ai changé mon pronostic et j'ai mis Orton. Je dis, c'est pas possible, ils vont pas faire ça quand même. Eh ben si, ils l'ont fait, c'est incroyable. Alors, moi, j'ai pas de soucis avec Jinder Mahal champion, personnellement. J'ai pas de problème, parce que pour moi, ça peut faire tout à fait un bon champion heel de transition, tout comme moi, un champion qui est, je trouve qu'avec ses laquais, il marche bien. Il est impressionnant physiquement, il est détestable au possible, détestable à plusieurs niveaux, détestable parce que, déjà de base, il est agressif, il a un discours hargneux, mais aussi parce que les gens plus smart ne considèrent qu'il ne mérite pas. Il est pas au bon endroit sur la carte. Donc en fait, il réunit plein de hits différentes. Donc déjà de base, il part avec un bon point, contrairement à par exemple Orton qui ne suscitait aucune réaction. Le côté trio un peu à Orton. Moi j'ai bien aimé Orton quand il était à la Legacy avec Cody Rhodes, c'était DiBiase. Edge à l'époque où il avait ses Edge Heads ou plein d'autres champions par le passé qui sont flanqués avec leurs petits faire-valoir. Seth Rollins avec ces deux chauves là, je sais plus, j'ai oublié leur nom. J.J. Security. Enfin, bref, on pourra en trouver je pense des dizaines. Moi c'est une formule que j'aime bien parce que c'est le champion qu'on déteste de nature parce que voilà, incapable de s'en sortir par lui-même, détestable au possible. Donc ça peut fonctionner le temps que ça fonctionnera, champion de transition. Écoute, ils ont voulu tenter un coup, je peux pas leur reprocher de vouloir essayer des choses comme ça, surtout quand on avait un champion comme Orton qui moi ne m'emballait pas. Bon, Ça, c'est sur la partie Jindermahal. Après, sur le, bon, sur le match, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'était pas c'était pas bon. C'était assez chiant, sauf les dernières minutes. Moi, j'ai envie de dire que j'ai trouvé que l'over de la fin était pas trop mal fait. Les Singh Brothers sont plutôt bons autour du ring. Je trouvais que l'intervention était toujours bien fichue. J'ai pas eu le sentiment qu'on avait un Capharnaüm illisible. J'ai trouvé que c'était plutôt bien exécuté. Ils ont pris des bons bumps. Ils ont bien évité le tomber sur le RKO sur Jindermahal. Donc voilà. Après, les 15 premières minutes étaient ultra chiantes, évidemment. On s'y attendait. Donc bon, après voilà, je sais ce que Ringside va dire.
Il est en train de bouillir là, Ringside. Oui, ouais. Je vais essayer d'être.
En plus avec le bref avec et concis, avec le bonnet, la chaleur,
ça fulmine.
C'est ce qu'il va dire, mais on peut pas. C'est dommage la ceinture sur un mec comme
parce
ça
qu'il parce qu'il est nul à chier.
Quand on a le talent qu'on a dans l'honneur. Et moi, ça me dérange pas d'avoir
catcher nul à chier dans le main event. On en a déjà un avec Randy Orton, maintenant on en a deux.
Ça donne un côté, moi je trouve que j'aime bien parce que c'est un côté un peu plus réaliste, plus sportif au catch, comme quoi tout peut, par moment, tout peut arriver. Enfin, il y a des moments où, avec la bonne conjoncture, avec les bonnes tricheries, avec les bons trucs, bah ouais, tout peut arriver. Ça fait 4 semaines qu'il a fait son trou, qu'il a été opportuniste. Voilà, moi je trouve que de temps en temps ça fait du bien de pas juste les favoris absolus l'emporter. Je trouve que le shocking moment était pas mal fait.
Ouais, mais c'est choqué. Ouais, bon, c'est choqué. Il a pas du tout le niveau, ce pauvre Jindermahal. Il est mauvais dans le ring, il est ennuyeux. C'est ça le problème, c'est qu'il est ennuyeux. Bon, il a avec lui ses deux acolytes là qui font un petit peu le boulot. Alors tu dis c'est bien fait, mais ils ont quand même failli en tuer un là, hein, donc c'est pas bien fait. Hein. On était à deux doigts d'avoir un cadavre. Donc là, voilà, il y a pas les bonnes personnes dans le main event. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. On va s'ennuyer avec ces mecs là. On va s'ennuyer dans les matchs. Ce pauvre Jinder, il est mauvais en promo. Il est pas bon dans le ring. C'est pas Orton qui va le sauver. Je comprends pas d'ailleurs Orton. Alors Orton, il veut pas se coucher devant Corbin, il veut pas se coucher devant AJ Styles, il veut pas se coucher devant Luke Harper, et il perd contre Jindermahal. Jindermahal, c'est un jobber quand même qui a rien gagné, qui montre rien dans le ring. Il a aucune qualité.
Il n'avait rien gagné.
Son dernier fait d'armes, c'est d'avoir fait deuxième au la Battle Royale là dans des géants. Je serais pas étonné qu'on se retrouve à SummerSlam avec la main event gros confit et Jindermahal, hein, faites gaffe quand même, hein. Voilà, pour tout ça c'est mauvais parce que déjà on s'ennuie. J'ai écouté les minutes moi sur ce match là, hein. Je regardais la montre, j'ai dit putain, il y en a encore pour 5 minutes, c'est pas possible. Tout ça c'est choqué pour choquer et c'est pas bon pour business. Ils ont pas, voilà, si tu regardes un peu les chiffres, ils ont pas sold out le pay-per-view. Quand ils ont annoncé la carte, les ventes se sont stoppées. Je vois gros comme une maison une chute des ratings de SmackDown qui était déjà pas très bon. Ils sont en train de détruire tout le boulot qu'ils ont fait pendant un an pour remettre SmackDown à niveau. Pour moi, tout ça c'est très 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 mauvais. Voilà, je compte.
Mais ça, à la limite, Jinder n'est qu'une illustration parmi d'autres de cette chute des ratings et ce mauvais booking. Hein,
est-ce que ça va être l'effet Del Rio quand il avait pris son
Donc voilà, ils vont peut-être tout faire val d'aguerre rapidement pour attraper les choses. C'est toujours possible, ils savent toujours comment rebondir. Mais là, on est clairement dans un truc, je veux dire, la rivalité, c'est un truc des années 80-90, raciste. Nullissime, on n'a plus envie de voir ça de nos jours. Quand il sort de la voiture et qu'on lui met un tapis persan sous les pieds, franchement, merci.
Je pense que la WWE ne se.
Je pense que Vince McMahon était dans la voiture, c'est lui qui a donné le tapis. Il était dans le coffre de la voiture et c'est lui qui a donné le tapis persan. N'oubliez pas, les gars, je viens juste d'avoir.
Jamais, tu mets un jobber comme ça, champion. Il vient de faire son retour, il a pas gagné de match depuis un an, il a jamais rien montré. Et puis il a un physique de bodybuilder complètement pété aux amphétamines et aux anabolisants, là. C'est pas un exemple pour les gens, donc. Non, c'est 0-0 sur toute la ligne, hein. Moi je suis désolé. Hein.
Bon, c'est après des bodybuildés, il y en a un paquet. Et puis visiblement, il a un régime.
Apparemment, il travaille beaucoup. Dans les podcasts, juste après le match, où il vient dire Vince est très content. Je lui ai prouvé que j'étais un mec qui travaillait bien, complètement hors de son personnage aussi, histoire de casser encore un peu le kayfabe. Non, c'est 0-0-0-0.
Bon, ouais. Eh ben, moi je dis, bien fait. Bien fait là pour tout le monde. Bien fait pour les smarts qui sont fait troller jusqu'au bout.
Oui, on s'est fait vraiment.
Bien fait pour Orton. Parce que franchement, ce mec, il fout rien. Et pour sa gueule d'avoir été obligé de se coucher face à Jinder Mahal. Tu disais effectivement, il voulait pas se coucher contre d'autres qui en auraient.
Tu sais pourquoi il se couche devant lui? Parce qu'il sait qu'il est plus mauvais que lui. C'est tout. Le mec lui fera pas d'ombre. Ah, tiens, vas-y, bah, prends le spot pour me rappeler d'ici deux semaines. J'en ai rien à foutre. Mais non.
Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. Bien fait pour les Indiens pour terminer ma tirade. Bien fait pour les Indiens parce que du coup ils ont quand même un champion, leur champion national. Bien fait pour le compte en banque de Vince McMahon parce que visiblement il mise vachement là-dessus. Et puis bah bien fait pour Jinder parce que le mec, en dehors du scénario, du booking, etc. Au moins voilà le mec a il a bossé dur, il a bouffé du pain noir et bah il a été au bon endroit. Il a été bon droit au bon moment et il a bossé dur pour arriver là. Alors, je pense que, enfin, je sais pas si quel signal s'envoie auprès des autres catcheurs, mais ça prouve aussi que si tu bosses dur et bien et que tu es au bon endroit au bon moment et que Vince t'a la bonne et qu'il a des plans comptables pour toi, tu vas te retrouver en main event de Backlash. Mais bon, c'est vrai que le match était une purge, une véritable purge, quoi. Ça, là-dessus.
Ça, c'est le seul défaut. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent sur le chat du live. C'est vrai que t'as pas l'impression de regarder des matchs pour le titre mondial parce que c'est vrai que c'est un peu triste de se dire, bon, combien de matchs comme ça on va avoir. Mais bon, moi je trouve que en champion, je maintiens, en champion de transition, heel, ça peut être sympa parce que celui qui va aller le détrôner va vraiment va tous nous libérer d'un poids, tu vois. C'est toujours comme ça que ça marche.
Ça aurait marché avec Orton aussi. Champion
heel,
hein.
Non mais
on attendait tout ce qui dégage.
Fallait le faire turn.
Et bah alors dans ce cas-là, c'est face.
Merci. Et du coup maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que Rousseff ne va pas revenir en face pour nous libérer de la tyrannie de Jinder? C'est possible. C'est possible. Pourquoi pas? Non, mais bon, il va probablement garder le titre très longtemps quand même. Donc, moi, je serais moins fataliste sur le constat. On ne démolit pas le travail de
Ah, moi, j'ai pas envie de regarder
juste
ce
avec un règne. Bah, écoute, voilà, pendant quelques semaines, t'as pas envie de regarder SmackDown. Mais de toute façon, s'il voit que ça ne clique pas, ça ne fonctionne pas avec le public, c'est. Ça va très vite, il perd son.
Là, on peut quand même dire qu'à l'instant T, là, ils font de la merde.
Ah oui, non, non.
On peut se mettre d'accord là-dessus.
Je sais pas si. Moi, je suis pas fan non plus, mais je trouve la tentative. Moi, je trouve que. Voilà. Et puis, je trouve que c'est pas mal fait, en tout cas.
C'est convenu.
Même si je suis d'accord que c'est chiant. Enfin, moi, je me suis fait chier aussi, hein. Mais.
Bon, messieurs, c'est l'heure de valider vos analyses, votre expertise avec le mot de la fin. Alors, attention, Ringside, on a droit qu'à un flop, hein. Je rappelle les règles, un seul flop, hein. Donc, le mot de la fin, votre top, votre flop et votre note. Eh ben, tiens, Ringside, justement, quel est ton mot de la fin, s'il te plaît?
Mon flop, je vais le donner à Nakamura, quand même, parce que, voilà, un an passé à NXT pour travailler le personnage, l'acclimater au monde de la WWE, le faire arriver en grande pompe. Il y avait un violoniste qui était venu, même quand il était arrivé à SmackDown. Tout ça pour sortir un match pour mettre en valeur Dolph Ziggler. Je trouve ça complètement con. Voilà, donc ça c'est mon flop de la soirée. Mon top, bah, je vais le donner à Breezango, hein, qui a fait un très bon boulot. Même avec les Ouzo, si on va mettre ce match-là en top. C'était le seul moment où, voilà, où j'étais vraiment, vraiment bien à regarder le show. Et ma note, je vais être très méchant, je vais mettre 1. Il y a 0,5 pour Breezango, 0,5 pour AJ Styles et Kevin Owens. Et le reste, c'est vraiment 0 pointé.
Allez, c'est toujours un plaisir d'être invité aux analyses de pay-per-view de SmackDown.
C'était la corvée.
Donc la semaine prochaine, ce sera juste Giscard et moi, puis on mettra des 4.
Plein de 4 partout. Non.
Très bien, et ben Giscard, alors vas-y, remonte-nous un petit peu la moyenne du pay-per-view, s'il te plaît.
Oh merde, oh putain, rien ne va plus là, la maison McDonald's.
Je vais pas beaucoup la remonter non plus. Non, alors mon flop, je voulais le donner à Nakamura aussi, qui m'a évidemment déçu, qui m'a évidemment déçu.
On t'en embarras du choix, hein. Tu veux le donner à Rowan aussi, on en a pas parlé, qui était caché.
Ouais, je peux le donner à Eric Rowan, mais bon, du coup, on en a pas parlé. Donc non, écoute, je vais le donner au mec qui a écrit la fin du match des filles, puisque en plus, il faut que j'arrête de changer mes pronostics en dernière minute, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais je me disais qu'à la limite, le seul truc qui pourrait justifier une victoire des méchantes, c'est que du coup, voilà, on capitalise un peu sur une dissonance et que Carmella, en tout cas, que la championne se fasse pin pour pouvoir enchaîner sur une rivalité pour le titre derrière. Mais en fait, non, ils ont rien à couler avec ce match et en plus, c'était mauvais. Donc, et puis ils ont fait catcher les mauvaises personnes trop longtemps. Enfin bref. Donc je vais donner un flop aux filles. Et puis mon top, je pourrais troller et le donner à Jinder Mahal parce que
j'ai... Bah écoute, non mais ça tiendrait dans un sens.
Tu as
construit un argumentaire pour ça, hein.
Quelque sorte, j'ai trouvé. Ils ont eu les couilles, donc sinon je l'aurais donné à Brizango. Donc je vais donner mon top à Jinder Mahal pour Jinder Mahal
champion. À 36% près, on est encore dans le pays libre, donc tout va bien.
Donc du coup, voilà. Écoute, je salue l'audace et l'exécution. Maintenant, je ne salue pas les semaines qui vont venir. Hein. J'admets tout à fait qu'on va se faire chier, mais écoute, ça m'a fait plaisir sur le moment. Et puis, par contre, ma note, je vais mettre 25. Ça ne méritait pas moyenne, mais bon, j'ai quand même eu. Dans l'ensemble, j'ai eu des matchs. J'ai pas eu des matchs qui m'ont donné envie de zapper non plus. Kevin Owens et AJ Styles, c'était vraiment excellent. Nakamura Ziggler, malgré tous les défauts, et Zayn Corbin, malgré tous les défauts. Il y a eu une belle surprise à la fin. Bon, allez, 2,25, mais c'était pas un bon pay-per-view.
Et ben moi, mon top, je vais donner à Dolph Ziggler et mon flop à Nakamura. Voilà, parce que tout simplement, on en a parlé, ils ont juste raconté l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est juste complètement con. Et ma note, et ben écoute, c'est la même note que Giscal. J'ai mis également 2,25. Voilà, hein, c'est sauvé par ce dont on a parlé, hein, les dangos et puis la scène US. Voilà, j'ai passé un moment mi-fig, mi-raisin. Voilà, puis la prise finale qui. Ouais. Ils sont allés au moins juste vous, et puis j'étais content de voir Orton perdre la tienne.
De pas avoir. Ça fait un mois que je le dis et je l'ai pas misé. Quoi.
Ah, tu n'as pas misé au final. Ouais, ça, c'est con. Hein. Franchement, tout était aligné pour lui. Hein, clairement, là, on s'est voilé la face l'inévitable.
C'est toujours comme ça. À chaque fois, il faut lire l'histoire. Je sais pas pourquoi je me prends la tête.
Mais c'est juste parce qu'il fallait pas que ça arrive, en fait. Parce que c'est une très mauvaise idée. C'est pour ça qu'on disait que ça n'arrivait pas.
Ouais, mais là, t'es.
C'est la mauvaise raison pour les pronostics.
Eh ouais. J'espère que le lendemain de soirée sera meilleur, que la gueule de bois va pas être trop douloureuse. Pardonnez-nous d'en douter, mais voilà. Toujours est-il que on vous donne rendez-vous pour Raw. Ce sera votre prochain rendez-vous. Catch Up, hein, votre podcast officiel du catch. Vous pouvez nous suivre en audio sur PodCloud, iTunes, en vidéo sur YouTube. CDC, Catch Up CDC pour le Twitter, le Facebook, lescahiersducatch.com pour le site. Commentez, partagez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Votre top, votre flop et votre note, les commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis salut et rendez-vous pour le prochain numéro. Merci Giscal.
Merci Yann, merci.
À la semaine prochaine.
Ciao tout le monde. Yes, moins d'une heure, yes.
On est bon.
Allez.